nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, il est difficile de lire un évangile plus à même d'apporter un peu de lumière dans notre cachot que celui du récit de la résurrection de Lazare, comme on l'appelle. À bien y réfléchir, en effet, nous sommes exactement dans la même situation que lui après le miracle de son retour à la vie. Alors si vous me dites que vous n'êtes pas mort, que vous n'êtes pas encore mort, eh bien c'est que vous n'avez pas compris ce que le baptême a accompli au fond de votre âme. Comme nous lirons dans la nuit de Pâques, nous sommes passés par la mort avec le Christ au jour de notre baptême. La vie chrétienne, elle est donc bien située entre deux morts, exactement comme Lazare, une mort à laquelle on a déjà réchappé une première fois, cette mort qui est conséquence du péché originel dont est marqué tout homme venant en ce monde, dont nous sommes libérés, et puis cette autre qu'il nous faut préparer, notre trépas. Autrement dit, l'état d'esprit avec lequel nous devons vivre pourrait rejoindre celui de Lazare. Nous sommes revenus de la mort, on a eu chaud, mais on a bien conscience qu'elle est partie remise. Le défi pour Lazare, comme pour nous, c'est de ne pas rater sa sortie. La vie chrétienne, pour Lazare, c'est sa deuxième vie, et la vie chrétienne, c'est une deuxième vie qui commence, c'est la grâce d'un sursis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des récits d'expériences de mort imminente, comme on en trouve à foison sur la toile, mais Lazare aurait fait le buzz aujourd'hui, son expérience étant celle d'une mort effective, plus impressionnant que une mort imminente. Une mort effective, c'est plus impressionnant. Combien plus aurait-il pu faire sienne les déclarations du type « rien ne sera plus jamais comme avant » qu'on entend depuis que cette expérience de mise au tombeau universel se voit imposée à une grande partie de l'humanité depuis quelques semaines. Toujours est-il que s'attarder, en l'imaginant à partir des circonstances rapportées par l'Évangile, sur la façon dont Lazare a dû vivre sa deuxième vie, et donc préparer sa deuxième mort, rejoint directement notre vie chrétienne. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Comment imaginer le réveil de cet ami de Jésus, la vie qui s'ensuivit? Comment Lazare a-t-il vécu par la suite? La tradition nous apprend qu'il a vécu en saint. En quoi a consisté sa sainteté? D'abord, il nous est sans doute tous arrivé un jour, pas trop souvent j'espère, mais en conduisant l'un ou l'autre véhicule, de frôler la mort l'espace d'un instant. Je veux dire d'avoir évité d'un coup de volant ou d'un coup de frein le pire. D'avoir pris alors conscience qu'à un centimètre près, nous aurions pu y passer. Et de constater, Dieu merci, que la route continuait, plus radieuse que jamais, que nous étions bien vivants. Peut-être avons-nous alors au fond de notre cœur béni notre Seigneur, sa Sainte Mère ou notre ange gardien. Peut-être nous sommes-nous également demandés en vérité si nous aurions été trouvés prêts à comparaître devant notre juge et sauveur. Nous nous sommes dit que ce coup de frousse accordé par la divine providence était une miséricordieuse invitation à aller rafraîchir la grâce de notre baptême en allant nous confesser, je ne sais pas. En tout cas, certaines épreuves font office de traitement de choc contre la procrastination spirituelle. Il nous oblige à regarder en face ce qu'au XVIIe siècle on appelait la grande affaire, c'est-à-dire le moment le plus important de notre vie, l'heure de notre trépas. Cet instant où nous serons sommés de poser un ultime et mystérieux acte de liberté. Et cet acte, nous ne le produirons certainement pas à partir de rien. Il sera au contraire pleinement en fonction de la totalité de notre existence vécue. Ce dernier saut ne pourra pas s'improviser. Chaque instant de ma vie présente le prépare secrètement et souvent inconsciemment. Et justement, la révélation chrétienne affirme que ressusciter ne s'improvise pas, que ressusciter s'apprend. Et ressusciter, soyons précis, consiste à sortir de cette vie pour rejoindre une éternité qui peut être une éternité de vie ou une éternité de mort. On peut donc réussir sa sortie ou la rater. Et si on ne pouvait que la réussir, Dieu ne se serait pas donné la peine de venir nous sauver, de venir nous avertir. Oui, réussir sa mort, selon la belle formule de Fabrice Hadjadj, c'est réussir sa vie. Comment se préparer à ressusciter, si je puis dire, dans la bonne direction? Alors on peut commencer à répondre à cette question de façon objective, pour demeurer dans cette espérance fondée de ressusciter pour la vie éternelle, d'être effectivement sauvé au-delà de cette existence passagère. Il me faut demeurer dans l'amour de Dieu. autrement dit être en état de grâce, en pleine amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans une communion de foi et de charité, que le sacrement du pardon régulièrement reçu notamment, ainsi que la réception fidèle de l'Eucharistie, à vivre sans cesse. Mais plus subjectivement, je veux dire d'un point de vue plus existentiel, nous serions aussi bien inspirés de regarder notre vie comme un stage préparatoire plus ou moins long à cet acte final qui la couronnera à notre mort, et de considérer que chaque journée se présente comme une occasion de nous entraîner, d'accomplir des petits exercices de résurrection préparatoires à la grande. Alors comment comprendre en quoi consiste cette gymnastique de l'âme, qui d'ailleurs commence dans l'âme mais se traduit souvent par des actes très concrets, incarnés? Eh bien, j'ose une comparaison avec l'univers carcéral. Souvent le 7e art nous le présente comme une sorte de salle d'entraînement confinée où nombre de détenus donnent l'impression, à force d'exercices physiques accomplis entre quatre murs, de préparer leur sortie, je veux dire leur jour de sortie, la fin de leur confinement. Cette multitude d'actes fait passer le temps, mais les prépare aussi à la sortie, à cette entrée dans la vraie vie que l'on veut franchir bien vivant et non pas anéanti par la détention. Une autre image qui me vient, c'est à 17 ans, j'ai choisi de faire une préparation militaire parachutiste, et avant de se jeter de l'avion, il fallait consentir à s'entraîner 5 jours durant au sol, en répétant indéfiniment quelques exercices rudimentaires, des roulés-boulés au ras des pâquerettes, puis depuis un tabouret, puis sur à partir d'un mur d'un mètre, sans oublier bien sûr la répétition du franchissement de la portière, les mêmes exercices répétitifs, mais tous préparatoires d'un seul acte, qu'on n'avait pas envie de rater, c'est vrai, le franchissement de la portière. Aujourd'hui, concrètement, quels sont les exercices que je puis accomplir dans les 4 murs de mon appartement qui puissent me préparer effectivement à ressusciter un jour pour une éternité de vie au jour de ma mort? Eh bien, les premiers chrétiens ont très tôt identifié la résurrection et la charité en disant qu'il s'agissait au fond du même mouvement spirituel. La charité, c'est-à-dire l'amour avec un grand A. En effet, comme acte divin, la résurrection d'un être humain, dont Dieu est la cause, c'est un acte d'amour de la part du Seigneur. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous ressusciter, qu'il nous veut vivants à jamais. Saint Jean écrit dans sa première épître que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc ça veut dire qu'il applique le même raisonnement pour l'homme. Nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons nos frères. Hein, c'est-à-dire nous ressuscitons lorsque nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas, au contraire, demeure dans la mort, ne ressuscite pas. Dès lors, celui qui aime en vérité ressuscite. Saint Jean identifie le fait d'aimer en Dieu à la résurrection. D'aimer en Dieu est donc, on peut le dire plus généralement, pour tout acte bon, toujours inspiré par la charité. Tout acte bon me fait participer au mouvement de la résurrection. On identifie les actes bons et la résurrection. Parce que toutes les actions qui m'arrachent à moi-même, qui me font mourir à moi-même, qui m'affranchissent de moi-même, du vieux moi, me libère de ma finitude par un sursaut d'amour divin dont l'Esprit Saint est la cause, j'amasse un trésor dans le ciel, j'investis dans ce qui ne passe pas, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, celui qui aime au contraire, qui accomplit la justice, vainc la mort, fût-ce à coup d'épingle, comme disait Sainte Thérèse. Pour un chrétien, les petits ennuis, les contrariétés, les promiscuités pénibles peuvent se présenter comme de vrais exercices, des occasions de sursaut de charité préparatoires à sa propre résurrection. Avant celle-ci, d'ailleurs, l'humble entraînement qu'il représente peut disposer aussi une personne, si besoin était, à accomplir, à vivre dans, enfin, à l'héroïsme ordinaire ou extraordinaire. Parce que cet entraînement, je veux dire par là, ne dispose pas simplement à la résurrection finale, espérée et préparée, mais également peut-être à des actes plus importants, héroïques, qui vont être suscités par les circonstances. Rares sont les actes héroïques qui résultent de conversions soudaines. C'est très rare, en fait. Je pense au récit poignant du film Les Oubliés, un très beau film qui raconte la transformation intérieure d'un sergent danois qui est chargé d'encadrer, après la victoire de 45, de jeunes Allemands réquisitionnés pour le déminage des plages. Il est rempli d'un désir de vengeance, mais on le surprend finalement a posé un acte de miséricorde parfaitement imprévisible, que je vous laisse découvrir. Je ne vais pas spoiler. Mais dans la réalité, la plupart des héros, des personnes capables de donner leur vie sans hésiter sur le champ, sont des personnes entraînées, aguerries à force de choix quotidiens, discrètement posés, exercées à vivre dans la dynamique du don, à l'école de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour notre salut, dans un acte de charité inégalable, mais qui est précisément la source de cet héroïsme chrétien qu'on appelle la sainteté, comme on l'exprime dans la collecte de ce cinquième dimanche, que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ. La charité du Christ, quelle est-elle, qui a donné sa vie par amour pour le monde? Elle est très très belle, cette collecte du cinquième dimanche de Carême. Bon, mais revenons à Lazare. Toujours est-il qu'il a dû effectivement, au sortir de son confinement sépulcral, essayer de changer sa façon de vivre, en considérant le reste de son existence comme un miséricordieux sursis à bien employer. Il dut tâcher de vivre en vrai disciple et préparer, après cette annulation de sortie, sa vraie sortie, sa mort, pour en faire une entrée dans la vie, pour devenir le Saint Lazare que nous prions, tout simplement, quand nous prenons le train, par exemple. À sa suite, nous pourrions bien décider de vivre notre épreuve et les tentations qui l'accompagnent, celles du repli, de l'égoïsme, de la tristesse, du laisser-aller, j'en passe, comme autant d'occasions de nous préparer à la sortie. Non seulement celle du confinement, puisque le confinement aura une fin, le Seigneur nous promet aujourd'hui par la voix d'Ézéchiel dans la première lecture, je vais ouvrir vos tombeaux, vous en faire remonter. Il paraît que ça sera mi-avril. Mais également la sortie de cette existence, laquelle est une forme de confinement aussi, qui ne prend fin qu'avec la mort. Il n'y a qu'au ciel où nous serons pleinement libres. Chers amis, l'immense grâce qui est faite au Fils du Royaume, aux disciples du Christ Jésus, c'est d'avoir une idée de la fin, de ne pas ignorer que quasiment tout ce que nous entreprenons est un entraînement à dire oui en vue du grand oui. Je ne dis pas que tout est seulement préparatoire au futur du ciel en ce bas monde, mais tout est effectivement déterminant. Quand même l'actualité immédiate ne cesse d'obturer cette perspective céleste, éternelle. Et quel bonheur de savoir cela, de ne pas l'ignorer. Quelle responsabilité aussi de devoir le révéler, de le faire découvrir notamment à tant de justes qui agissent avec parfois beaucoup de générosité, et pourtant dans l'ignorance de cette promesse d'origine divine. Quelle révélation sera-ce pour certains? Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te désaltérer? Demanderont les justes au Fils de l'homme à la fin des temps. Ça me fait penser aussi, ça rallonge un peu, mais bon, les homélies du confinement, elles peuvent être un peu plus longues parce qu'on a le temps. Ça me fait penser à une scène célèbre dans Karate Kid, où l'enfant qui a demandé au maître Han de lui apprendre le kung-fu se voit imposer par celui-ci un exercice incompréhensible, qui semble irrationnel, ou du moins sans rapport avec l'art martial, celui d'accrocher sa veste, de la reprendre, de la jeter par terre, de la ramasser à nouveau, puis de l'accrocher, et ceci des heures durant. Cela paraît absurde et même insupportable, aussi bien pour le petit que pour le spectateur. Or, on découvre un peu plus tard que, ce faisant, en chacun de ces actes posés, répétés, les postures élémentaires du kung-fu, essentielles pour l'ultime combat, ont été parfaitement acquises. Ce n'est pas du temps perdu. Vous voyez, l'annonce de cet ultime combat pour chacun d'entre nous, de cet inévitable franchissement, notre mort, alors que Dieu seul décidera, cette annonce est au cœur de la révélation et représente pour nous une grâce immense. Elle devrait permettre aux chrétiens d'organiser leur vie à la façon d'un bel entraînement, motivé par l'espérance du salut. Initiés à la vie céleste, les chrétiens ne devraient pas se comporter comme des enfants qui s'agacent d'accomplir des devoirs apparemment inutiles, comme le gamin dans ce film. Depuis notre espace confiné, attentif à la parole de notre coach, notre maître, le ressuscité, nous apprenons de lui à nous donner dans l'amour, de mieux en mieux, de plus en plus. Nous ne cessons pas d'essayer, humblement. Par la grâce du baptême, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair, dit saint Paul, mais de l'esprit, si nous demeurons marqué par la mort à cause du péché, l'Esprit peut nous faire vivre si nous devenons justes à force de nous exercer à ressusciter, autrement dit, à aimer. Enfin, ayons justement une prière fraternelle pour tous ceux qui cessent à aimer, qui se dévouent en première ligne, non sans s'exposer, qui donnent de leur temps, de leur énergie, avec tant d'amour pour défendre la vie des malades. Puisse aussi cette épreuve forcée permettre à tous les hommes, quelle que soit leur situation, d'oser regarder, les affaires courantes étant en suspens, du côté de la grande affaire. Et puis de donner aux chrétiens de proclamer en cette occasion leur espérance en la résurrection et en s'y exerçant. Peut-être qu'une des plus belles façons de résumer en quoi consiste cet exercice spirituel de résurrection, ce fait de s'entraîner à ressusciter d'heure en heure en attendant l'heure, est exprimé par cette magnifique prière de saint François. Mettons-la ensemble pour finir sur nos lèvres, en priant ensemble, en demandant cette grâce de devenir enfin ce que nous sommes. Au jour de notre baptême, nous sommes sortis d'un tombeau, revenus de la mort une première fois, et nous nous préparons à la mort, à la fin de notre vie, à notre propre départ. Nous nous souvenons à l'école de Lazare que nous ne voudrions plus vivre comme avant, mais tendus vers l'avant. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine que je mette l'amour, là où est l'offense que je mette le pardon, là où est la discorde que je mette l'union, là où est l'erreur que je mette la vérité, là où est le doute que je mette la foi, là où est le désespoir que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres que je mette la lumière, là où est la tristesse que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.